France Info.
Entre 17 et 18 degrés, mais au nord comme au sud, hein, 17 à Reims, à Rennes, comme à Montpellier, 18 à Paris, comme à Clermont-Ferrand, Bordeaux et Toulon.
Pas de jaloux. Merci beaucoup Christine Peña et à tout à l'heure. Merci d'être à l'écoute de France Info, il est 5h. Et à la une ce matin, ce sont donc ces nouvelles frappes de part et d'autre. Israël et les États-Unis continuent d'attaquer l'Iran qui réplique et vise les pays de toute la région. Le trafic aérien est très perturbé mais plus de 200 passagers ont pu rentrer hier à Paris. Le trafic maritime est aussi paralysé dans le détroit d'Ormuz et c'est une information France Info. Près de 170 bateaux, des pétroliers, des porte-conteneurs sont bloqués en ce moment même. Dans ce contexte, Emmanuel Macron dévoile la nouvelle doctrine française de dissuasion nucléaire. Nous reviendrons aussi sur le procès en appel de l'attentat de Samuel Paty, des peines de 6 à 15 ans de prison prononcées. Et puis quand un particulier détient un tableau de Rembrandt sans le savoir, un tableau de l'artiste néerlandais vient d'être découvert. Des retours au compte-gouttes, 247 passagers pour le moment, des Français installés au Proche-Orient ou des touristes qui étaient dans la région ont pu rentrer en France hier soir. Plusieurs vols en provenance du Proche-Orient ont atterri à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, l'un depuis Beyrouth au Liban et l'autre depuis Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Yvan Planteil.
Guillaume traîne ses deux valises et tient en même temps la main de sa fille. Tout sourire malgré ses yeux cernés, ces nordistes en vacances pour une semaine aux Émirats Arabes Unis étaient dans leur hôtel quand le ciel s'est embrasé.
Il y avait quelques avions de chasse qui passaient au-dessus de l'aéroport d'Abu Dhabi et puis les missiles qui tombaient inertes mais en feu. Au bord des plages, sur les immeubles, et puis voilà quoi.
Même expérience pour cette famille, Aurélien, le papa, a donc décidé d'expliquer le conflit en cours à ses deux enfants.
On peut pas leur cacher, hein, parce qu'ils sont là, parce qu'ils voient ce qui se passe. On prend une carte du monde et on leur explique un petit peu ce qui se passe, voilà, on essaie de les rassurer.
Clotilde, 11 ans, Théophile, 9 ans, avait hier soir le regard dans le vide en sortant de l'avion.
J'étais très très stressée. Au début, je comprenais pas grand-chose. Mais ensuite, j'ai compris qu'il y avait une guerre.
Audrey et Cléo, ces deux Avignonnaises, mère et fille, ont été, elles, confinées dans leur hôtel à suivre les événements jusqu'à saturer.
Les infos le soir sur la télé, c'était le seul truc qu'on peut faire, quoi.
Au bout d'un moment, j'ai évité en fait de regarder parce que je me suis dit tant qu'on n'avait pas de billet retour, ça servait à rien de s'angoisser en fait.
Le patron des aéroports de Paris prévient que ces perturbations vont durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
France Info reportage d'Yvan Planteil. Pour le moment, la France recommande à ses ressortissants aux Émirats Arabes Unis de ne pas rejoindre spontanément les aéroports. Les avions qui décollent sont très nombreux. Air France a par exemple prolongé la suspension de sa desserte au Moyen-Orient au moins jusqu'à jeudi inclus. Dans moins de 10 minutes, une Française témoignera sur France Info. Elle est, elle, coincée au Sri Lanka. Pendant la nuit, l'Iran a continué d'attaquer plusieurs pays de la région. L'ambassade américaine à Riyad a été touché. Donald Trump affirme que les États-Unis répondront bientôt à cette attaque. Le président américain continue de parler d'un conflit de 4 à 5 semaines en Iran, mais n'exclut pas l'envoi de troupes au sol. Washington demande par ailleurs à ses ressortissants de quitter le Moyen-Orient, 14 pays au total. Les États-Unis et Israël ont poursuivi les frappes en Iran ces dernières heures. Mais dans une interview donnée à Fox News, le premier ministre israélien a lui assuré que ce conflit ne serait pas une guerre sans fin. En attendant, l'Iran fait pression sur la communauté internationale en menaçant de brûler tout navire qui tenterait de franchir le détroit d'Ormuz, une artère vitale pour le commerce mondial. D'habitude, ce sont 110 navires environ qui transitent chaque jour par ce détroit, Marina Capitaine.
Il est déclaré dangereux par les gardiens de la révolution iranien samedi dernier et dimanche, 3 bateaux y sont attaqués selon des agences de sécurité. Conclusion, toutes les grandes compagnies dont le français CMA-CGM ordonnent à leurs bateaux de quitter le détroit en urgence ou de l'éviter à la dernière minute. Les navires se replient au nord du détroit dans le golfe Persique et ils y sont encore bloqués aujourd'hui. Ce sont, selon les infos de France Info, au moins 127 grands tankers de pétrole et gaz, 40 porte-conteneurs aussi qui attendent de connaître leur sort. Les armateurs suspendent aussi leurs activités dans le canal de Suez jusqu'à nouvel ordre. Armateurs qui refuse pour le moment d'en dire plus pour des enjeux de sécurité, mais aussi des enjeux financiers, dit une source à France Info. Car à l'autre bout de la chaîne, les clients attendent leurs marchandises. Et puis, il y a aussi la pression des assureurs. Une vague de renégociations est lancée autour des clauses contre le risque de guerre. Maintenant qu'elle est avérée, cette guerre, certaines assurances résilient carrément les contrats en cours.
Marina Kabitène. Les autorités françaises craignent un risque terroriste ici en France. Le ministre de l'Intérieur estime que l'Iran peut tenter de s'en prendre à des opposants au régime dans notre pays. De nouvelles mesures de protection policière ont été prises. Les patrouilles sont aussi renforcées autour des lieux qui accueillent l'opposition comme les locaux associatifs. Et c'est dans ce contexte, mais lors d'un discours prévu bien avant les événements du week-end, qu'Emmanuel Macron a annoncé le renforcement de l'arsenal nucléaire français. Discours stratégique prononcé sur la base militaire de l'île Longue dans la rade de Brest. Audrey Tison, le chef de l'État, qui est aussi chef des armées, a présenté son concept de dissuasion nucléaire avancée. Une nouvelle étape dans la doctrine de dissuasion nucléaire française.
Ouvrir un peu plus le parapluie nucléaire français en coopérant davantage avec certains pays européens. C'est ce que souhaite Emmanuel Macron avec son nouveau principe de dissuasion avancée.
Elle offre la possibilité pour les partenaires de participer aux exercices de la dissuasion. Cela pourra impliquer également du signalement, y compris au-delà de nos frontières strictes, ou la participation conventionnelle de forces alliées à nos activités nucléaires. Elle pourra enfin prévoir le déploiement de circonstances, d'éléments de force stratégiques chez nos alliés.
C'est-à-dire prépositionner ponctuellement des rafales porteurs de missiles nucléaires lorsque des partenaires sont menacés. La démarche intéresse déjà 8 de nos voisins, dont l'Allemagne, la Pologne ou le Royaume-Uni. En échange, ces derniers s'engagent à un épaulement réciproque. Chacun est prêt à mettre ses armes non nucléaires au service des autres, notamment pour la défense aérienne.
Ce serait une juste répartition des efforts. Et la France y sera donc clairement gagnante.
En revanche, pas question de partager le bouton de l'arme nucléaire. Le président français restera le seul à avoir la main dessus.
France Info reportage d'Audrey Tison. France Info, il est 5h06. Le verdict a été rendu au procès en appel de l'attentat contre Samuel Paty, le professeur d'histoire géo assassiné par un djihadiste en 2020. 4 accusés étaient rejugés, les peines sont allégées. Mais ils sont tout de même condamnés à de la prison de 6 à 15 ans. Les deux hommes les plus lourdement condamnés sont ceux qui avaient lancé la campagne de haine sur les réseaux sociaux. Pas les jeunes hommes qui accompagnaient le terroriste dans ses derniers préparatifs, Sarah Guibaudot.
Ils avaient 18 et 19 ans et s'ils ont accompagné l'assassin la veille pour acheter des couteaux, ils ont toujours dit qu'ils ignoraient son projet criminel. Leur peine passe de 16 à 6 et 7 ans de prison sans qualification terroriste. Isbah Riskala est l'avocate de Naïm Boudaoud.
Il était à la fois abasourdi, heureux, un peu perdu, incrédule.
Ça veut dire qu'il va sortir quand ?
Dans une dizaine de jours vraisemblablement.
Les deux autres accusés sont condamnés pour association de malfaiteurs terroristes pour avoir lancé cette fatwa numérique, Thibaut de Montbrial, l'avocat de Michael Paty.
Le message qui doit être entendu aujourd'hui partout en France, c'est que de désigner du doigt un professeur parce qu'il a fait œuvre de pédagogie sur la République et sur ses valeurs, doit être sévèrement condamné.
Le parent d'élève voit toutefois sa peine allégée, 10 ans au lieu de 13, 15 ans confirmé en revanche pour l'islamiste Abdelhakim Sefrioui, accusé d'avoir envenimé les choses à l'époque, il a gardé toute son animosité. Vincent Bringart, un de ses avocats, dénonce une décision politique.
Abdelhakim Sefrioui était l'objectif de ce procès. Et parmi les excès que nous avons vus, un ministre de l'Intérieur qui a écrit un mail à une présidente de cour d'assises pour lui expliquer qu'il ne se démarquait pas de l'accusation.
De quoi nourrir un pourvoi en cassation.
Sarah Guibaudot, le match est à 21h. Ce soir, Strasbourg, qui évolue en Ligue 1, affrontera Reims en Ligue 2, un match de quart de finale de la Coupe de France de foot. Les Françaises jouent aussi ce soir contre l'Irlande, première journée de la phase de Ligue des éliminatoires pour le Mondial l'année prochaine. Et puis, c'est un événement dans le monde de l'art, une découverte qui n'arrive pas tous les jours. Un nouveau tableau du maître néerlandais Rembrandt vient d'être authentifié par des chercheurs du Rijks Museum d'Amsterdam, Anne Chepeau.
Ce tableau s'intitule « Vision de Zacharie dans le temple » peint en 1663. Il représente le grand prêtre Zacharie, personnage de la Bible, dans une relative pénombre, ses parures dorées étant éclairées par une lumière provenant du coin droit du tableau. Il a fallu 2 ans d'études minutieuses pour authentifier cette œuvre. Les chercheurs ont analysé le bois de chêne sur lequel elle a été peinte, ainsi que la couleur et l'épaisseur de la peinture. Le tableau présente aussi des similitudes de style et de thème avec d'autres œuvres peintes par Rembrandt à la même période. période. Cette découverte est exceptionnelle. Nous espérons toujours trouver un nouveau Rembrandt, mais cela arrive rarement, a souligné le directeur du Rijksmuseum. L'œuvre appartient à un collectionneur privé qui a contacté le musée sans savoir ce qu'il avait entre les mains. Ce nouveau Rembrandt sera exposé dès demain au Rijksmuseum, auquel il va être prêté pour une très longue durée.
Anne Chépeau pour ses précisions et Christine Peña pour la météo à 5h10. Et c'est le même scénario qu'hier. Oui, j'aurais mieux fait de rester couchée finalement pour vous annoncer la même journée qu'hier avec ces nuages en Méditerranée, mais ce beau soleil qui s'impose et puis cette douceur qui prend de plus en plus de place, 17 à 18 degrés, je vous le disais tout à l'heure, au nord comme au sud ce matin. On a une belle différence encore entre Strasbourg, 2 degrés ce matin, en ce moment, 2 degrés à Nancy, ce sont les derniers relevés de Météo France. Il fait 6 en ce moment à Lille, 9 à Biarritz comme à Lyon et Paris. Et le plus doux, c'est pour Toulon, avec 14 degrés.
Merci beaucoup Christine Peña.
Bonjour, c'est Salvatore Adamo et c'est avec grand plaisir que je passe la semaine avec vous dans le monde d'Élodie.
Ne me quitte pas, on m'appelle jeunesse.
Jusqu'à vendredi, Salvatore Adamo est l'invité d'Élodie Suigo. Au fil des souvenirs, retour sur 60 ans de carrière.
C'est un hobby, vraiment. Moi, je n'ai toujours pas l'impression de faire un métier.
Le monde d'Élodie avec Salvatore Adamo, c'est toute la semaine à 5h20, 14h20 et 21h50 sur France Info.
À retrouver sur l'application Radio France et sur franceinfo.fr.
5h11 sur France Info, la guerre peut-elle encore durer des semaines? Téhéran en a-t-il les moyens et quel est le rôle des drones dans cette guerre? Tous les détails dans une dizaine de minutes. Et tout de suite, ce témoignage d'une Française bloquée à l'autre bout du monde.
France Info, édition spéciale, Maureen Suignard.
Quatrième jour de guerre au Moyen-Orient avec les frappes américaines et israéliennes qui se poursuivent contre l'Iran. Téhéran réplique et attaque de très nombreux pays de la région et les conséquences du conflit sont désormais mondiales. Bonjour Laura Mann.
Bonjour.
Merci d'être en direct sur France Info ce matin. Vous êtes à des milliers de kilomètres de Téhéran. Vous vous trouvez au Sri Lanka, au sud-est de l'Inde. Vous faisiez votre voyage de noces. Félicitations tout d'abord. Mais vous êtes bloqué sur place à cause de ce conflit en cours au Moyen-Orient. Vous deviez rentrer hier soir, mais votre vol passant par Abu Dhabi a été annulé. C'est votre compagnie aérienne qui vous a prévenu?
Oui, c'est tout à fait ça. Merci pour... Pour notre voyage jeunesse, oui, effectivement, notre vol était prévu hier soir et dans la nuit, dans la veille, on a été prévenu de l'annulation du vol et de la possibilité de, enfin, ils proposaient de rembourser le vol et voilà.
Et qu'est-ce que vous avez fait alors quand vous avez appris l'annulation de votre vol?
Eh bien, on a passé littéralement toute la journée d'hier à essayer de trouver des solutions, des vols. Mais en fait, tous les vols partant du Sri Lanka passaient par des pays du Golfe, donc en fait, avec des risques d'annulation. Donc, on n'a pas fait ce choix. On a essayé de voir si on pouvait passer par l'autre côté, aller vers les États-Unis ou l'Amérique du Sud, mais c'est pareil. Donc, il n'y avait aucune possibilité jusqu'à ce que hier soir, notre compagnie nous propose un vol de retour dimanche en passant par New Delhi.
Avec des tarifs qui restent raisonnables ou bien vous devez payer des centaines, voire peut-être des milliers d'euros pour rentrer?
Alors, la compagnie va prendre en charge le New Delhi Paris et nous, c'est de Colombo à New Delhi, on en a pour 600 euros sans compter les nuits en plus à passer ici.
Vous deviez reprendre le travail demain en France, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous dit votre employeur?
J'ai eu de la chance. Ils ont compris. Enfin, c'est une situation exceptionnelle, évidemment, et vraiment de choix. Donc, j'ai essayé de répondre à quelques messages via mon téléphone, mais je peux rien faire de plus. Et ils l'ont compris.
Est-ce que vous avez des contacts avec les autorités françaises? Est-ce qu'on vous propose des nuits d'hébergement supplémentaires ou autres? Est-ce qu'on vous donne des informations?
Non, on n'a reçu aucune information de ce côté-là. Non, vraiment, pour le coup, on se débrouille par nous-mêmes et puis on va essayer de négocier ensuite.
Vous êtes aussi loin de la zone de conflit sur place, donc au Sri Lanka. Comment est-ce que ça se passe? Vous avez tout de même pu trouver un logement facilement?
Alors, on était logés, donc au moment de l'annulation du vol, on devait partir pour l'aéroport. On a eu de la chance, l'hôtel nous a permis de rester toute la journée en essayant de trouver une solution. Et puis après, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a aussi un peu d'affolement ici, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'annulations, il n'y a plus personne qui arrive au Sri Lanka là pour le moment, donc les hôtels se vident. Je pense qu'il y a énormément de touristes aussi qui sont retournés vers la capitale. Voilà, et puis on remarque aussi beaucoup de tuk-tuk, par exemple, aux stations-service, en fait, comme il y a un risque de pénurie de pétrole.
Ces petites voiturettes.
Il y a des heures et... Oui, les petites voiturettes. Il y a des heures et des heures de queue, et puis les prix sont en train d'augmenter aussi sur les taxis.
Et déjà, est-ce que vous avez aussi des contacts avec d'autres Français qui sont dans la même situation que vous?
On n'a pas encore trouvé des Français. On a vu des Allemands qui n'ont pas encore trouvé de solution de vol. Et on imagine qu'on est beaucoup dans ce cas-là.
Merci beaucoup, Laura Mann, d'avoir répondu aux questions de France Info ce matin. Bon courage pour rentrer en France. On l'espère au plus vite pour vous. Nous prenons maintenant la direction du Liban, puisque la guerre concerne maintenant aussi ce pays. Le Hezbollah, milice pro-iranienne, a attaqué Israël et l'armée de l'État hébreu riposte très fortement. Des milliers de personnes sont sur les routes pour fuir les régions bombardées par Israël. L'armée a appelé hier soir les habitants d'une trentaine de villages du sud du Liban évacués. Au Liban, ce sont les sentiments de peur et de colère qui dominent chez les habitants, nous dit sur France Info Rima Abdoul Malak, directrice du groupe de presse libanais L'Orient le Jour et ancienne ministre française de la Culture.
On vit un cauchemar et on se demande de quoi l'avenir va être fait, vu que là, le conflit est un embrasement régional global dans lequel on est embarqué, alors qu'on espérait encore il y a quelques jours que le Hezbollah se tiendrait à l'écart, puisqu'il n'avait aucun intérêt à entrer dans ce conflit, qu'il n'a aucun moyen d'aider son grand frère iranien à survivre et que lui-même n'a pas les moyens de cette guerre. Mais voilà, il a décidé de prendre cette décision qu'on estime suicidaire pour beaucoup ici au Liban. Donc oui, ça crée de la colère, ça crée de la peur et ça crée une rage pour tous les Libanais qui n'en peuvent plus, pour qui c'est la guerre de trop.
La guerre de trop avec aussi des dizaines de milliers de personnes de nouveau déplacées. Vous parlez de guerre de trop. On imagine à travers ces propos dans quel état se trouve la population libanaise après tout ce qu'elle a déjà enduré.
Oui, il faut imaginer que vous avez des familles bloquées sur les routes qui essayent de fuir leur village du sud. Vous avez des familles déplacées, près de 30 000 dans des centres d'accueil. Vous avez des gens qui cherchent encore des logements, qui sont dehors, qui dorment dans leur voiture. Vous avez des routes coupées parce qu'il y a des débris propulsés par les bombardements. Vous avez des files d'attente aux stations-service qu'on a peur qu'il n'y ait plus d'essence. Donc, il y a une espèce d'état de cohue, de chaos, de panique générale. Et en même temps, il y a de la débrouillardise, de la solidarité, du soutien des familles, des amis, pour essayer de venir en aide à tous ceux qui en ont besoin. C'est ça que vous disiez aussi quand vous parliez de la résilience libanaise, mais là, elle est particulièrement éprouvée et je crois qu'on est à bout.
Rima Abdoul Malak, est-ce que l'État libanais aujourd'hui, qui a pris une décision sans précédent, hein, on l'a entendu, d'interdire les activités militaires du Hezbollah, est suffisamment fort pour tenir le coup? Et est-ce que, c'est une question annexe, mais est-ce que la population, vous-même, redoutez au Liban une attaque terrestre israélienne?
Oui, bien sûr, c'est dans tous les esprits, parce que Israël, visiblement, n'écarte aucune option. Et tout peut arriver. On a peur aussi d'une véritable annexion du Sud-Liban qui est déjà très avancée, puisque depuis le cessez-le-feu de novembre 2024, Israël a tous les jours violé ce cessez-le-feu avec des positions dans le Sud-Liban et des attaques quotidiennes. Donc cette population aussi du Sud-Liban est arrivée au bout aussi de ses ressources. Donc on a peur de tout ça, bien sûr. Mais évidemment, le gouvernement libanais a eu raison de taper du poing sur la table et de rappeler que toutes ces actions sont absolument illégal et inacceptable, mené par le Hezbollah. On était dans une voie quand même de désarmement du Hezbollah qui était bien avancé, des négociations étaient en cours et il devait y avoir une conférence de soutien à l'armée libanaise organisée à l'initiative du président Emmanuel Macron, évidemment, qui a été reportée. Donc malheureusement, cet espoir qui commençait à se dessiner, aujourd'hui recule, mais il faudra pas lâcher ce combat qui est celui de la souveraineté du Liban et de retrouver la pleine maîtrise du territoire et de nos frontières.
À vous entendre, on a l'impression que cette souveraineté libanaise est plus fragile que jamais. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, il va falloir en appeler à la communauté internationale, peut-être aussi à la France? Il y a encore une force d'intervention, la FINUL, avec une forte présence des soldats français. Mais est-ce que vous redoutez le pire?
Oui, on le redoute toujours. Maintenant, on sait que la France est aux côtés du Liban. On sait que la communauté internationale est capable de se mobiliser. La FINUL est là que pour un an, malheureusement. Donc, qu'est-ce qui va venir après? Qu'est-ce qui va se discuter? Ce sont des questions cruciales. En tout cas, nous, à L'Orient le Jour, nos journalistes sont sur le terrain quotidiennement et font le maximum pour informer en toute indépendance, qu'on ait un journal qui est indépendant, sans aucun financement, ni des monarchies du Golfe, ni d'aucun parti politique. Et ça, je tiens à le rappeler parce que c'est difficile de travailler dans ces conditions et qu'on a besoin de le faire savoir.
Rima Abdoulmalak, directrice du groupe de presse libanais L'Orient le Jour et ancienne ministre française de la Culture, au micro France Info de Julien Langlais.
France Info, 5h-6h.
5h21 sur France Info, l'info en une minute avec Philippine Thibaudot. Et à la une ce matin, un nouvel ordre d'évacuation pour des dizaines de localités au Liban.
Émis par l'armée israélienne qui vise le Hezbollah libanais, soutien de Téhéran, elle dit ce matin frapper ses centres de commandement et ses entrepôts d'armes au quatrième jour de la guerre au Moyen-Orient. La capitale Beyrouth est également visée. De son côté, l'Iran a visé l'ambassade américaine de Riyad en Arabie Saoudite, déclenchant un incendie limité selon le ministère saoudien de la Défense en Jordanie en raison d'une menace non spécifiée. Le personnel de l'ambassade des États-Unis à Amman a été évacué. Combien de temps va durer cette guerre? Pour Donald Trump, cela pourrait durer un mois ou plus. Et pour le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, sur la même longueur d'onde que le président américain, cela ne sera pas une guerre sans fin, affirme-t-il. Fermé après l'offensive américaine et israélienne sur l'Iran, le point de passage de Kerem Shalom pour l'aide vers Gaza rouvre aujourd'hui. Il se situe sur la triple frontière entre l'enclave palestinienne, Israël et l'Égypte. Et puis c'est un retour aux sources pour le grand Wemby. Victor Wimbanyama va devenir actionnaire minoritaire de Nanterre 92. C'est ce que confirme le club où le basketteur a évolué entre ses 10 et 17 ans. Lui qui joue actuellement aux États-Unis, aux Spurs de San Antonio.
France Info, édition spéciale.
La guerre en Iran durera entre 4 et 5 semaines, prédit le président américain Donald Trump. Dit désormais qu'il est prêt à envoyer des troupes au sol. Le conflit s'est régionalisé ces dernières heures. L'Iran a riposté et visé plusieurs pays de la région. Mais le régime des Mollahs a-t-il les moyens de tenir? A-t-il encore un arsenal militaire important? Boris Loumane, les attaques menées par l'Iran peuvent-elles encore se poursuivre pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines?
Alors, d'après de nombreux experts militaires, les stocks de missiles iraniens sont encore loin d'être épuisés. Ces projectiles de courte et de moyenne portée pourraient même permettre à Téhéran de frapper Israël et les pays du Golfe pendant encore quelques semaines. L'Iran posséderait actuellement entre 1500 et 2000 missiles. Quant aux drones, les Shahed, le pays peut en produire plus d'une cinquantaine par jour et il en aurait plusieurs milliers en réserve. Ces stocks d'armes, l'Iran a pu les reconstituer en partie ces derniers mois, après un premier coup porté à son arsenal, l'opération israélienne Rising Lion en juin dernier. L'armée israélienne avait alors détruit la moitié des stocks de missiles iraniens.
Ces drones et ces missiles, c'est le point fort de l'arsenal iranien, parce qu'en dehors de cela, l'équipement militaire iranien est vieillissant.
Oui, et notamment sa flotte d'avions de combat. L'Iran en possède un peu plus de 200, mais la plupart sont hors d'âge. Certains datent des années 90, voire des années 80. Quant à la marine iranienne, là encore, elle est vieillissante et peu développée. Environ une trentaine de sous-marins et quelques dizaines de navires de guerre qui ont d'ailleurs été visés ces dernières heures. 9 d'entre eux auraient été coulés par l'armée américaine.
Merci pour ces précisions, Boris Loumane. Pour le moment, Téhéran continue de frapper. Une attaque de drones a provoqué un incendie à l'ambassade américaine à Riyad. Deux missiles balistiques ont aussi été interceptés au Qatar. Allez, soufflons un peu avec le monde d'Élodie. Élodie Suigo, c'est un auteur, compositeur et interprète italo-belge qui est votre invité toute la semaine.
Bonjour Salvatore Adamo.
Bonjour Élodie Suigo.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir.
Vous passez la semaine avec nous sur France Info dans le monde d'Élodie avec votre dernier album des Nefs et des Groseilles sous le bras et la fin de votre tournée. Vous serez d'ailleurs à l'Olympia le 22 mars prochain. Également au Québec, également en Belgique. Vos chansons sont une machine à remonter le temps, avec cette chaleur réconfortante et rassurante. Il faut préciser aussi que le travail d'écriture, d'interprétation et de composition a toujours été un cadeau de la vie pour vous et même une immense passion. Quand votre premier single sort et donc trouve son public, vous avez à peine 20 ans. Mais vous saviez déjà que ce métier-là était ce qui vous correspondait le plus et ce qui vous faisait vibrer. On a le sentiment déjà qu'à ce moment-là, vous aviez compris qu'un chemin venait de se dessiner.
Oui. Un chemin aussi avec des barrières et des embûches, parce que vous parliez de mon enregistrement sorti à 20 ans. C'était mon premier succès, mais mon premier disque est sorti alors que j'avais 16 ans. Donc là, je ne savais pas encore où j'allais. Donc j'ai pu faire mon premier disque en italien parce que le producteur qui m'avait entendu lors de la diffusion du concours que j'avais gagné, il n'avait été accroché que par le fait que ma voix ressemblait un peu à celle de Rocco Granata, qui était le premier italo-belge à avoir eu un succès en Belgique et international avec Marina. J'en ai fait un second en anglais, ça n'a pas marché non plus. J'en ai fait quatre avant que ça ne démarre vraiment. Je m'étais dit que ma chance était passée. Et c'est là que mon père m'a sidéré, alors que j'avais tout fait à son insu, parce que lui me faisait des efforts pour me payer des études. Eh bien, lui m'a dit « Non, non, maintenant, je sais ce que tu dois faire. » Et c'est lui qui est allé frapper à la bonne porte, quand j'avais 20 ans.
Votre père a été très important pour vous, Salvatore.
Mais il m'a mis sur des rails, donc il est trop tard de sortir. Et même depuis qu'il m'a quitté, il m'arrive de sentir encore sa main sur mon épaule. Je me dis à moi-même, qu'aurait dit mon père, qu'aurait fait mon père.
Il est mort très brutalement, il a voulu aider, il s'est noyé. Ça a été très très difficile pour vous.
Mon père avait mis tout le monde dans sa poche dans le métier. Il avait un bagou et une fantaisie. Je l'évoque dans une chanson que je n'ai jamais sortie par pudeur, qui s'appelle Paris 60. Dans les années 60, avec mes valses lentes, mon filet de voix et mon papa, je débarquais gare du Nord dans un drôle de décor tel que je ne l'imaginais pas. C'était pas le gay Paris, c'était froid, c'était gris. Il y avait des CRS partout. On ne parlait que d'Algérie. Nous n'avions qu'une envie, retourner au plus vite chez nous. Ma guitare dans l'étui faisait comme un fusil. On nous arrêtait tous les 10 pas. On vient pour le concours. Ma petite chanson d'amour, vous voulez que je la chante ou pas? Et voilà Paris qui me sourit, qui me tend les bras. Et là, avec mon père, j'aurais pu aller au bout du monde. C'est lui qui ouvrait la route, quoi. C'est lui qui prenait les coups s'il y avait des coups à prendre.
Il y a un autre titre qui va aussi marquer l'année 63. C'est une année qui est juste extraordinaire pour vous. C'est Vous permettez, monsieur. Est-ce qu'elle est toujours aussi indissociable de votre vie?
J'en suis heureux. C'est comme une décoration que je porte. Mais il y en a quelques-unes, comme ça, de chansons. C'est vrai que dans mon tour de chant, j'ai une quinzaine de chansons. C'est une chance inouïe dont je sais que grande partie du public se déplace pour les écouter. Donc ce serait prétentieux de ne pas les chanter.
Je voudrais que vous me parliez de « Vous permettez, monsieur ». Elle raconte quoi, cette chanson?
Elle est venue de notre vraie façon de vivre dans la cité, où le samedi ou le dimanche, on se réunissait chez l'un ou chez l'autre. Et l'été, c'était même dehors. Ouais. Il y en avait un qui amenait une guitare, l'autre un accordéon. Et puis, ça partait en bal. Et à 12-13 ans, on commençait à regarder les demoiselles. Mais il fallait d'abord vraiment aller demander au papa. Et c'était une épreuve délicate à passer.
Il y a toujours d'ailleurs un petit clin d'œil aux filles, entre les filles et les garçons, même dans Les Nefles et des Groseilles, votre dernier album. Les Nefles, c'est ce qu'on obtenait.
Il y avait cette timidité dans l'approche. J'évoque le fait que j'allais à l'église, j'étais chez les frères des écoles chrétiennes, et après la messe, on faisait le tour de l'église, les garçons dans un sens, les filles dans l'autre. Et au croisement, c'était un petit sourire, un petit regard. Plus tard, c'était peut-être un petit billet. Mais les billets, c'est plus vite les filles qui les écrivaient. C'est les filles aux garçons. Hein.
Billet de déclaration d'amour, évidemment. Merci Salvatore de passer cette semaine
Merci
avec
à
nous
vous, Elodie.
Sur France Info. Votre album d'NF et des groseilles est disponible. Je rappelle que vous êtes en concert dans toute la France, en Belgique et au Québec également. Je vous donne rendez-vous demain. Nous parlerons du titre « Mes mains sur tes hanches ». Et puis « Inch'Allah » aussi. C'est une chanson D'accord. pacifiste que vous avez écrite pour justement tenter de réunir tout le monde. Merci beaucoup et à demain.
Merci à vous, avec grand plaisir. À demain.
Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien.
Le Monde d'Élodie à retrouver sur franceinfo.fr. La météo dans un instant.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur CIC.fr.
Avec Christine Peña à 5h29, la douceur de nouveau au rendez-vous.
Mais toujours au rendez-vous, effectivement, de nouveau, ça remonte ces températures. Ça n'atteindra pas les températures qu'on a eues déjà. Les 20 degrés, nous les aurons, mais seulement à Ajaccio pour aujourd'hui. 19 à Marseille, à Limoges, à Agen, à Auch, à Biarritz. Sinon, c'est très homogène. Hein. 18 à Paris, comme à Lyon, Clermont-Ferrand, comme à Nantes, à Bordeaux, comme à Toulouse, comme à Toulon. 17 à Lille, à Caen, mais aussi à Nice et Montpellier. 16 degrés du côté de Dijon, mais aussi à Perpignan ou encore à Strasbourg. Les nuages, on les retrouve comme hier, hein, dans le sud, notamment sur le Languedoc-Roussillon, vers les Pyrénées et les Alpes de Provence. Et nous avons sinon le soleil qui s'impose très facilement partout ailleurs.
Merci beaucoup Christine Peña. La guerre au Moyen-Orient, encore au cœur de la prochaine demi-heure sur France Info. Nous sommes en édition spéciale. On vous détaille toutes les dernières actualités. Ces frappes iraniennes sur une ambassade américaine à Riyad notamment. Et ce conflit peut-il être importé en France? Question à la une du journal de 5h30. Merci d'écouter France Info.
France Info. Maureen Suignard.
La guerre en Iran peut-elle avoir des conséquences sécuritaires en France? Le risque est en tout cas pointé par le ministre de l'Intérieur. Laurent Nunez a demandé dès ce week-end une vigilance particulière aux forces de l'ordre. La sécurité des bâtiments diplomatiques liés au conflit est renforcée. La sécurité des lieux de culte juifs également. Mais le ministre de l'Intérieur évoque aussi d'autres risques terroristes, notamment Yannick Falt.
Signe de l'inquiétude du ministre de l'Intérieur, la moitié de la réunion habituelle du lundi matin a été consacrée aux répercussions de la guerre en Iran, réunion avec notamment autour de la table la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Pour Laurent Nunez, la menace est double, pour les Français à l'étranger d'abord, à commencer par les pays du Golfe, en cas d'attaque iranienne contre des infrastructures civiles, hôpitaux, gares, hôtels par exemple. Mais le ministre de l'Intérieur craint aussi les répercussions possibles du conflit sur notre territoire, avec le risque d'élimination d'opposants au régime iranien. De nouvelles mesures de protection policière ont été prises. Les patrouilles sont également renforcées autour des lieux qui accueillent l'opposition, comme les locaux associatifs. Et puis Laurent Nunez n'écarte pas la menace terroriste avec l'utilisation potentielle de proxys, d'intermédiaires au service du régime des Mollahs. L'entourage du ministre rappelle notamment l'attentat déjoué en 2018 lors d'un rassemblement du Conseil national de la résistance iranienne à Villepinte, en région parisienne.
Et ce risque en France est lié donc à cette guerre qui se poursuit. Les États-Unis et Israël ont encore frappé l'Iran. De fortes explosions entendues hier soir à Téhéran. Le régime des Mollahs attaque de son côté les pays voisins. Il y a notamment eu cet incendie à l'ambassade américaine à Riyad après une attaque de drone. Le premier ministre israélien justifie cette intervention militaire. Il affirme que le programme nucléaire iranien aurait été intouchable d'ici quelques mois. Il promet que ce conflit ne sera pas une guerre sans fin. Par ailleurs, l'armée poursuit ses frappes au Liban et divise le Hezbollah, la milice alliée de Téhéran. L'armée émet ce matin un nouvel ordre d'évacuation pour des dizaines de localités au Liban. Cette guerre au Moyen-Orient entraîne une envolée des prix du pétrole et du gaz sur les marchés. Et cela a de quoi inquiéter en France, alors que des milliers de Français ont déjà du mal à payer leurs factures d'énergie. Le médiateur national de l'énergie publie ce matin des chiffres. Le nombre d'interventions demandées par les fournisseurs de gaz et d'électricité en cas de facture impayée, ce sont des demandes de coupure ou de limitation de puissance. Plus d'1 200 000 interventions en 2025. La très grande majorité concerne des contrats d'électricité. Ce nombre baisse pour la première fois depuis 2021. Mais Lauriane Delanoë, les interventions sont encore bien plus nombreuses qu'avant la crise de l'énergie.
Les interventions pour factures d'électricité impayées ont presque doublé entre 2019 et 2025. Cette période marquée par la forte inflation dans le sillage de la guerre en Ukraine. Alors certes, les prix ont baissé l'an dernier, mais sans revenir à leur niveau d'avant-crise. Et dans la période, la plupart des fournisseurs ont fait évoluer leur politique en cas d'impayés. Au lieu de couper le courant de leurs clients, ils demandent maintenant une limitation de puissance. Là, les consommateurs peuvent encore s'éclairer, faire tourner leur frigo ou charger leur téléphone. Ces réductions sont de plus en plus fréquentes, multipliées par 3,5 depuis 2019. Il y en a eu près de 950 000 l'an dernier en France, pour environ 140 000 coupures d'électricité. Ces coupures totales sont interdites pendant la trêve hivernale. Le médiateur national de l'énergie demande leur interdiction toute l'année.
Lauriane Delanoë, et puis ça ne sera pas un rêve ou de la fiction. La Lune va bien devenir rouge. À 12h37, heure française précisément, une éclipse lunaire totale va se produire, c'est-à-dire que la Terre va parfaitement s'aligner entre le Soleil et la Lune, et cela donne donc cette couleur rouge à la Lune. Pas de chance, ça ne sera pas forcément visible depuis la France métropolitaine. Cette fois, il faut plus se trouver du côté de l'Asie, de l'Australie ou des Amériques.
France Info. Édition spéciale, Maureen Suignard.
Cette nuit encore, Israël affirme intercepter des missiles venus d'Iran. Téhéran réplique aux attaques menées par l'État hébreu et son allié américain. Le Premier ministre israélien affirme ce matin que ce conflit ne sera pas une guerre sans fin. Pourtant, en Israël, on se prépare à une guerre de long terme. Dès ce week-end, le grand hôpital d'Haïfa, dans le nord du pays, a déménagé tous ses services dans son parking souterrain, dans un immense bunker médical qui accueille en ce moment près d'un millier de patients. Et vous avez pu vous y rendre, Agathe Mahué.
Pour découvrir la fourmilière, il faut descendre au troisième sous-sol, le parking de l'hôpital, où des centaines de voitures étaient garées la semaine dernière encore.
J'espère que vous n'êtes pas claustrophobe, car ça ressemble un peu à un décor de Blade Runner.
C'est vrai qu'il y a un air de science-fiction, comme le dit David Ratner, le porte-parole de l'hôpital Rambam. C'est le plus grand de la région, entièrement déplacé sous la terre. Des blouses bleues ou blanches circulent dans les allées d'un service à l'autre, à peine cloisonné. Sous un panneau indiquant d'habitude aux voitures la sortie, un patient déjeune sur son lit d'hôpital. Là, un autre malade reçoit de la visite sur la place de parking 2536. Et le lieu est immense, 20 000 mètres carrés de surface, rien que pour cet étage. C'est presque 3 terrains de football.
Samedi, on a commencé à déménager à 8 h du matin et à 18 h le soir, l'hôpital souterrain était opérationnel.
L'équipe médicale commence à être rodée. C'est la quatrième fois ces dernières années que tout le monde descend. Le dispositif avait été pensé dès 2006, il y a 20 ans, lors d'un précédent conflit avec le Liban. De la pédiatrie à la gériatrie, chaque service s'est réinstallé, même le bloc opératoire. Le docteur Philippe Abécassis est anesthésiste en salle d'accouchement.
Il y a quelques minutes, il y a eu une alerte. Il y avait les sirènes sur les téléphones ici. Mais c'est comme si il ne se passait rien. Tout le monde sait qu'ici, on est en sécurité, donc on continue son travail. Très honnêtement, je ne vois pas de différence de qualité de la médecine. Oh, il y a du bruit, voilà, c'est ça. Ça, c'est la seule chose qui dérange un petit peu.
Un peu bruyant, forcément. 950 patients sont accueillis en ce moment pour une capacité totale de 2200 lits. Et ce n'est pas toujours facile non plus pour les patients eux-mêmes.
J'ai pas bien.
Salomon a 72 ans, il est dialysé et pas franchement ravi d'avoir dû quitter samedi sa chambre située dans les étages supérieurs de l'hôpital.
C'est très différent, c'est difficile. Il fait froid ici, c'est pas confortable. Pour manger, pour toilette, tu peux pas être tranquille ici.
Le lieu pourtant s'améliore au fil des conflits régionaux.
This is the first war that we have curtains.
Cette fois, des rideaux ont été ajoutés partout entre les services pour gagner un peu d'intimité. De toute façon, Salomon ne remet pas en question la situation. Il fallait frapper l'Iran, dit-il. Combien de temps faudra-t-il encore protéger ainsi les patients et le personnel soignant ? David Ratner se prépare à tous les scénarios.
On ne sait pas si on en est encore là pour 2-3 jours ou beaucoup plus. On est prêt à rester longtemps s'il le faut.
C'est le pays tout entier qui s'adapte, mais tourne aussi au ralenti depuis samedi. Les écoles notamment sont également fermées. Alors le parking de l'hôpital abrite aussi désormais une immense garderie.
Ça, ce sont tous les enfants du personnel de l'hôpital.
C'est le personnel qui travaille, les infirmières, les docteurs, les chirurgiens, tout le monde.
148 enfants précisément accueillis au deuxième sous-sol, le parking juste au-dessus, pour le temps qu'il faudra.
France Info, reportage d'Agathe Mahuet. Pendant la nuit, le premier ministre israélien a justifié cette guerre menée contre l'Iran. Benjamin Netanyahou affirme que le programme nucléaire aurait été intouchable d'ici quelques mois. Déclaration après celle de Donald Trump, le président américain embarqué dans la guerre. Alors que l'opinion publique américaine n'y est pas favorable, 6 soldats américains sont déjà morts. Il affirme désormais qu'il pourrait envoyer des troupes au sol si nécessaire. Il assure aussi que les États-Unis ont les capacités pour mener une guerre de haute intensité pendant plus d'un mois et que la grande vague de l'offensive américaine était encore à venir. Le président s'adresse d'abord aux Américains, selon Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire et spécialiste des États-Unis.
Il faut rappeler évidemment qu'on est en année électorale, avant des élections de mi-mandat qui ne s'annoncent pas très favorables comme d'ordinaire pour un président en place. Et par ailleurs, en fait, ce qui est très frappant, c'est qu'on a déjà les premiers sondages depuis samedi sur cette intervention et on voit quand même une désapprobation pour l'instant. Et alors qu'on est à peine au début de cette intervention en Iran, on a quand même une désapprobation majoritaire dans l'ensemble de l'opinion. Alors, Le bon côté pour Trump comme pour Hegseth, c'est que pour l'instant les républicains approuvent massivement. Dans le dernier sondage qui est sorti ce soir, sondage CNN, on a 77% de républicains qui approuvent l'intervention, mais inversement 59% de la population en général. Donc cette justification, je crois qu'elle s'adresse d'abord à la population, parce que pour l'instant quand même, pour un début d'intervention militaire, alors que d'ordinaire on a quand même un phénomène, surtout face à un régime aussi impopulaire que celui de l'Iran, on a un phénomène de ralliement autour du drapeau, de ralliement autour du président. Bah là, pas du tout. Donc on a une intervention assez impopulaire et surtout qui n'a pas été expliquée a priori. Donc là, on voit effectivement qu'on court un peu après les explications. Trump fait des interviews à longueur de journée, souvent contradictoires les unes avec les autres. Il dit une chose, puis une autre chose, pas forcément très cohérente. Et donc on voit qu'on court un petit peu face à une explication plus cohérente.
Est-ce que c'est un Donald Trump à contre-emploi ?
C'est forcément à contre-emploi face à ce qu'il a été à l'origine en politique. Cet homme s'est construit en politique il y a 10 ans sur je refuse les interventions à l'étranger, en particulier au Moyen-Orient, qui ont ruiné le pays, les déploiements très longs, j'épargnerai la vie des Américains et America First. Et là, forcément, on a à peu près tout l'inverse, puisque maintenant, alors même s'il faut en prendre et en laisser dans ces déclarations successives. Mais aujourd'hui, il dit « je serais prêt à envoyer des troupes au sol, donc au Moyen-Orient ». Donc forcément, ça paraît totalement contradictoire. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ses opposants, et en l'occurrence opposantes intérieures, comme Marjorie Taylor Greene, lui tapent à bras raccourcis dessus en disant « vous avez vraiment trahi toutes vos promesses, toute votre identité ». C'était vous nous aviez, elle a dit, vous nous aviez promis « America first » et « America last », encore une fois, donc c'est l'Amérique en dernier. Non, évidemment, par rapport à l'origine. Maintenant, peut-être qu'on peut avoir une autre interprétation de Trump. Trump, il dit « America first », ça veut dire aussi l'Amérique en premier partout dans le monde, et qui est forte, qui peut être unilatérale, qui peut frapper où elle veut et quand elle veut. C'est ce qu'essaye de développer le ministre de la Défense Hegseth, c'est-à-dire une Amérique forte, qui n'a aucun rival et qui peut frapper où elle veut et qui impose, c'est l'idée de Trump, qui impose la paix par la force. Mais c'est quand même, malgré ça, ça reste quand même contradictoire par rapport à l'origine d'America First.
Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis, avec Julien Langlais sur France Info. C'est dans ce contexte géopolitique qu'Emmanuel Macron a pris la parole hier. Discours prévu de longue date sur la dissuasion nucléaire. Le président français a développé son concept de dissuasion nucléaire avancée. Il propose une coopération inédite pour la défense de l'Europe. 8 pays vont s'allier à la France pour des exercices, mais le président français restera le seul décisionnaire de l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est une conséquence aussi du désengagement américain, analyse l'amiral Alain Coldefy, ancien commandant des porte-avions et ancien inspecteur général des armées.
Nos partenaires européens commencent à comprendre que Washington ne risquera pas le territoire américain pour sauver Bratislava ou Tallinn ou Riga. Donc il y a une petite angoisse, et la France, qui est totalement autonome, je le rappelle, depuis le général de Gaulle, est là pour répondre en partie à cette angoisse. D'où un travail en amont avec les Britanniques, qui sont les seuls détenteurs d'armes nucléaires avec la France, et avec les principaux alliés qui commencent à s'intéresser. Mais on part de très loin. Pendant des années, pendant 50 ans, nos amis allemands, belges, néerlandais, etc., ignoraient totalement la dissuasion française, car les Américains, bien sûr, ne voulaient pas qu'on en parle. Maintenant, ils la découvrent, car ils se retrouvent tout nus. Et là, je trouve que l'intelligence politique du président, mais c'est pas une flatterie, hein, c'est de dire, voilà, nous, on est là, on défend notre pays, nos intérêts vitaux ne sont pas définis géographiquement, et maintenant, il faut être allié et participer un peu plus. Alors, pourquoi participer ? Parce que il faut voir que le seuil nucléaire, ce qu'on appelle le seuil nucléaire, c'est quand même un seuil assez important en termes de menaces, en termes de combat, et que entre le niveau zéro de guerre et le niveau, mettons, 100, il y avait autrefois la première armée, des forces conventionnelles importantes. Ces forces, elles ont disparu depuis la chute du mur. Donc, on se trouve avec une sorte de gap de forces conventionnelles que tout le monde constate, hein, on en parle assez avec les événements actuels, et pour lequel nos amis européens pourraient participer pour essayer de combler ce gap. C'est pas ce qu'appelle le président appelle gagnant-gagnant. Alors il est clair qu'il l'a rappelé, la décision elle est nationale, le bouton il est français, celui qui appuie sur le bouton c'est le chef de l'État, mais il y a quand même une protection de facto de la décision nucléaire française par rapport à une menace qui pourrait se manifester, mettons, dans l'Est de l'Europe.
Concrètement, qu'est-ce que ça peut changer et surtout, combien de temps cela peut prendre pour être effectif ?
Alors, ça va dépendre de nos alliés. Notre dissuasion, elle est effective. Le président l'a rappelé, hein, ça fait 62 ans que l'armée de l'air est en alerte permanente, ça fait 54 ans qu'à chaque seconde, il y a 1, 2, 3 ou 4 sous-marins nucléaires en mer à chaque seconde, prêts à tirer, le doigt sur la détente. Et que chaque sous-marin nucléaire, il l'a rappelé, c'est 1200 fois Hiroshima en 30 minutes à 11 000 km. Donc pour la France, ça ne change pas grand-chose. En revanche, pour les Européens, nos alliés, nos voisins, l'Union européenne, auquel j'ajoute bien sûr les Britanniques, ça peut changer beaucoup de choses. Parce que, cette protection ultime, maintenant, ils sont en droit d'en douter, vu le comportement des États-Unis d'Amérique.
L'amiral Alain Coldefy, ancien commandant de porte-avions, avec Julien Langlais dans le 21h minuit de France Info.
France Info, 5h-6h.
5h46 sur France Info, l'info en une minute avec Philippine Thibaudeau à la une ce matin. L'armée américaine dit avoir détruit des postes de commandement des gardiens de la révolution iranienne.
Au quatrième jour de la guerre au Moyen-Orient, où les ripostes sont de tous les côtés, les gardiens de la révolution de leur côté, eux, affirment avoir attaqué une base aérienne américaine au Bahreïn. C'est un pétrolier présenté comme lié aux États-Unis qui a été visé hier par les Iraniens dans le détroit d'Ormuz, l'Iran qui menace de brûler tout navire qui tenterait de le traverser. Information France Info, au moins 167 bateaux sont actuellement bloqués dans le golfe Persique, dont 14 porte-conteneurs de l'armateur français CMA-CGM. En bonne nouvelle en demi-teinte, en France, les papeteries Condat en Dordogne sont sauvées. Elles vont être reprises par le groupe français SPB. Le tribunal de commerce de Bordeaux a retenu son offre. En revanche, l'entreprise ne prévoit de garder que 10% des salariés actuels. Et puis, début des quarts de finale de la Coupe de France. Ce soir, Ligue 1 contre Ligue 2. Strasbourg reçoit Reims. Coup d'envoi 21h. Demain, deux affiches 100% Ligue 1. Marseille contre Toulouse. Lorient face à Nice.
France Info. Édition spéciale.
Après 3 jours complets de guerre, les communications restent très difficiles entre l'Iran et le reste du monde. Internet est coupé dans le pays. Les journalistes étrangers ne peuvent pas se rendre en Iran. Mais France Info est allée à la frontière entre la Turquie et l'Iran. Quelques Iraniens quittent le pays et témoignent à votre micro, Timur Özturk.
Comme Amir, qui semble un peu perdu, il vient de traverser la frontière, consulte son téléphone, négocie un prix avec des chauffeurs de taxi pour aller à l'aéroport le plus proche. Il vient de quitter la capitale iranienne.
Là où j'étais à Téhéran, j'entendais beaucoup de bombardements, au moins 4 ou 5 par jour.
Amir a pris un bus à Téhéran, parcouru plus de 800 km pour se rendre en Turquie. Durant son périple, il a vu un régime qui se maintient malgré les frappes.
Il n'y a pas de pénurie de nourriture ou dans les services publics. Le gouvernement est puissant. Je dirais que tout reste sous le contrôle du gouvernement.
Il a bien assisté à des manifestations de joie, à l'annonce de la mort du guide suprême, mais il a aussi vu les partisans du guide se lamenter.
De l'autre côté, il y a des gens qui pleurent la mort de l'ayatollah.
Un peu plus loin, Ali tire sa valise. Lui aussi vient de Téhéran et dit ne pas avoir vu de manifestation depuis le début de la guerre.
Tout le monde reste chez soi, mais certains crient à leur fenêtre des slogans comme « Mort à Khamenei » et « Faites la mort de Khamenei », mais il n'y a personne dans les rues.
Ali ne sait pas comment la situation peut évoluer.
J'étais là-bas le premier jour de la guerre. On pouvait entendre les bombardements des avions de chasse. Tout était chaotique. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Tout ce que je sais, c'est que le régime tue des gens et que les États-Unis et Israël tuent aussi des gens.
Une Iranienne originaire de la ville de Tabriz charge sa valise dans un minibus. Juste avant de partir, elle nous confie son désarroi.
Je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'en ai aucune idée, aucune.
À la frontière de Kapıköy, ces Iraniens laissent derrière eux leur pays, plongés dans la guerre et l'incertitude.
France Info reportage de Timur Öztürk. La guerre va durer, assure les Israéliens et les Américains. Téhéran promet aussi de riposter encore, et cela depuis plusieurs jours. Cela a des conséquences sur le trafic aérien mondial. Des milliers de vols ont déjà été annulés. Mais Raphaël Ebenstein, pour l'instant, l'impact semble toutefois relativement limité pour les aéroports et les compagnies françaises.
S'il y a eu au moins 3500 vols annulés au cours des deux derniers jours au Moyen-Orient, notamment à Dubaï ou à Abu Dhabi, selon les décomptes de plateformes spécialisées dans le transport aérien, les perturbations n'ont évidemment rien de comparable en France. Le groupe ADP, ex-aéroport de Paris, fait état de seulement 130 annulations durant le week-end pour un total de 35 000 passagers n'ayant pas pu partir, soit environ 7% du trafic à Roissy-Charles-de-Gaulle et 1% à Orly. ADP projette environ 300 autres annulations sur l'ensemble de la semaine si la situation reste en l'état. Quant aux compagnies françaises, elles ont pour l'instant prolongé la suspension au moins jusqu'à jeudi inclus de plusieurs dessertes. Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad pour Air France, ce qui représente 5 vols quotidiens. Tel Aviv, Beyrouth, Jeddah et Médine pour Transavia. Les compagnies du Golfe, elles, ont commencé hier à reprendre en ordre dispersé de manière très limitée les vols au départ de Dubaï. Même si elles ne disposent pas de l'ensemble de leurs appareils, certains étant bloqués ailleurs dans le monde, une quinzaine par exemple à Roissy-Charles-de-Gaulle. À l'inverse, même si la situation sécuritaire s'améliorait, Air France fait déjà savoir qu'il lui faudrait forcément un petit délai supplémentaire, car aucun avion ni personnel d'équipage n'est présent à Dubaï. Et ça suppose donc au préalable de devoir les y acheminer.
Et la France recommande à ses ressortissants aux Émirats Arabes Unis de ne pas rejoindre spontanément les aéroports, alors qu'il y a eu plusieurs vols hier soir. Raphaël, au-delà de la desserte en elle-même de la région, le conflit entraîne-t-il d'autres conséquences pour les compagnies ?
Cela ne se ressent pas dans les temps de trajet, mais les compagnies doivent modifier leurs plans de vol et les couloirs aériens empruntés par leurs avions pour relier l'Europe à l'Asie. Ils ne peuvent notamment plus survoler l'Irak et le Koweït, la liaison la plus directe, et doivent donc soit passer plus au sud en traversant l'Arabie Saoudite, soit plus au nord par l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Malgré ces précautions, l'IATA, l'Association internationale du transport aérien, a solennellement appelé l'ensemble des belligérants à épargner l'aviation civile, alors que la crainte numéro un des compagnies est évidemment d'être victime d'un tir involontaire de missile en marge d'une zone de guerre.
Merci pour toutes ces précisions, Raphaël Ebenstein. Voici le choix de France Info. Et nous prenons maintenant la direction des Émirats Arabes Unis, où nous retrouvons Émilie Flao, correspondante de France Info sur place. Raphaël Ebenstein nous détaillait les annulations de vols en cascade. Il y en a eu quelques-uns de vols hier, tout de même depuis l'aéroport d'Abu Dhabi. Comment se sentent ceux qui restent sur place pour le moment, les Français expatriés qui travaillent et qui vivent là-bas aux Émirats, Émilie ?
Dans les rues d'Abu Dhabi, il y a sans doute moins de circulation, mais le balai des livreurs à moto n'a pas cessé. Les bus scolaires jaunes sont au dépôt, l'enseignement se fait à distance, mais les camions toupies continuent d'apporter du béton dans cette ville perpétuellement en chantier.
Bonjour.
Sophie vit à Abu Dhabi depuis 3 ans et elle a pu assister à une réunion organisée par l'employeur de son mari qui travaille pour un chantier naval français.
Là, ce qui est un peu particulier dans ma situation, c'est que mon mari est en déplacement et donc moi, je me retrouve toute seule sans lui sur Abu Dhabi. Mais même avec ça, l'entreprise de mon mari, oui, effectivement, communique avec nous et nous donne des informations et répond à nos questions. Moi, ça me rassure énormément. Et là, justement, ils nous ont parlé des différents scénarios qui pouvaient se produire. Et j'ai bien senti que, oui, ils étaient là avec nous et qu'on serait bien, on serait pris en charge.
L'entreprise leur a rappelé les consignes, se tenir loin des fenêtres, avoir préparé un sac avec quelques affaires et surtout son passeport et des photocopies de tous les papiers officiels. Chez Sophie, les sacs sont prêts, mais l'idée de rentrer l'angoisse énormément. Cela fait 14 ans qu'elle n'a pas vécu en France.
Ben, ça me fait peur, en fait. Je me dis que ça serait vraiment une situation extrême et je sais pas, comme c'est du jamais vécu, ça, franchement, je pense que ça me ferait peur. Et puis nous, boulot, enfin moi j'ai plus mon boulot, et puis je fais quoi? Et puis on a toutes nos affaires ici, et puis moi je laisse Ikram, enfin, qu'est-ce qu'elle fait elle?
Ikram, c'est la maid, comme on les appelle ici, la femme de ménage qui vit avec eux depuis leur précédente expatriation en Arabie Saoudite.
Ah ouais, c'est une question, c'est une vraie question quoi, qu'est-ce qu'elles font elles? Parce que l'Éthiopie, je suis pas sûre qu'ils aient quelque chose de mis en place quoi.
La plupart des expatriés français travaillent dans le militaire, l'aéronautique ou le pétrole. Ils sont souvent là pour 3 ou 4 ans, comme Bruno et Vanessa.
Aujourd'hui, on voit que l'évolution est plutôt bonne. On n'a pas entendu de bruit de bombe ou quoi que ce soit. Et on voit que la vie reprend ici à Abu Dhabi. Et on reste voilà, à l'intérieur comme il nous a été conseillé par les autorités françaises et les autorités émiraties. Voilà. Après, c'est une situation inconfortable. On espère que ça va s'améliorer, mais aujourd'hui, voilà, pas d'inquiétude particulière et on voit que la situation est plus ou moins maîtrisée.
Et s'il faut rentrer, ben on rentre. Après, on suit ce qu'on nous dit, quoi.
Rares sont ceux qui ont fait toute leur vie ici, comme Colette, qui entame sa 40e année à Abu Dhabi. Elle a vu la capitale se métamorphoser en une ville très moderne, au gratte-ciel de béton et de verre.
C'est très stressant, mais nous ne sommes pas en panique. Nous ne sommes pas en panique parce que les informations que donne le gouvernement sont claires, ils donnent des instructions très claires et surtout, on voit bien qu'ils interceptent la quasi-totalité des missiles et drones qui tombent.
Est-ce que vous envisagez de partir ou pas?
Non. À moins que les événements prennent une autre dimension. Pour l'instant, nous n'envisageons pas de rentrer.
40 000 Français vivent aux Émirats Arabes Unis, dont 6 000 dans la capitale, Abu Dhabi. C'est le pays du Golfe qui en accueille le plus.
Le reportage signé Émilie Flao, correspondante de France Info aux Émirats Arabes Unis. Le choix de France Info, c'est à retrouver sur franceinfo.fr. Il est 5h56, l'heure du réveil de l'écho. Bonjour Emmanuel Cuny.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec le Crédit Coopératif, banque engagée à vos côtés pour un monde plus durable et inclusif. Crédit Coopératif, une autre banque est possible.
Toute l'actualité économique en trois titres tous les matins, grâce à vous Emmanuel Cuny. Et donc, on commence avec l'assurance vie qui a démarré l'année sur les chapeaux de roue.
Oui, en janvier, les épargnants français ont déposé 6 milliards 200 millions d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré de leur contrat d'assurance vie. Alors, ces personnes qui ont pu placer se sont principalement tournées vers les unités de compte, des produits d'investissement risqués, mais qui peuvent, les bonnes années en tout cas, rapporter davantage que les fonds en euros qui, eux, sont garantis en capital. L'assurance vie bénéficie de vents porteurs depuis plusieurs trimestres déjà par sécurité dans l'incertitude de l'évolution de l'économie et du pouvoir d'achat.
Les papeteries Condat en Dordogne ont trouvé repreneur, mais l'aventure va se poursuivre avec beaucoup moins de salariés.
Oui, le tribunal de commerce de Bordeaux retient l'offre de la société de participation de la Bray, la SPB, pour reprendre le site plus que centenaire du Lardin Saint-Lazare en Nouvelle-Aquitaine. Le site est propriété du groupe espagnol Lecta depuis 1998. Alors le repreneur met sur la table 1 million d'euros et seuls 21 salariés sont repris. Les 175 autres sont licenciés alors que les effectifs avaient déjà été réduits de moitié lors d'un plan social il y a 3 ans. La SPB a déjà piloté la reconversion d'une ancienne papeterie Arjo-Wiggins dans le département de la Sarthe.
Et puis le géant américain Amazon double ses investissements dans l'informatique dématérialisée.
Oui, le groupe de commerce en ligne et de services informatiques investit 18 milliards de dollars, un peu plus de 15 milliards d'euros en Espagne, dans l'IA, l'intelligence artificielle, et le cloud, le nuage informatique. Informatique à distance, ces 18 milliards de dollars s'ajoutent aux 16 milliards qu'Amazon avait déjà déboursés pour le même projet sur une période de 10 ans.
On a de la chance, Emmanuel Cugny. On vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco.
Comme on pouvait s'y attendre, les marchés financiers réagissent à la guerre déclenchée samedi au Moyen-Orient. Hier, les grandes bourses internationales, dont Paris et Francfort, ont terminé en baisse. En fait, les investisseurs délaissent les actions en bourse pour acheter notamment de la dette, comme la France. Les placements beaucoup moins risqués à leurs yeux.
Merci beaucoup, Emmanuel Cugny. La météo dans un instant.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
Christine Peña, vous nous dites qu'il y a encore une journée très ensoleillée qui nous attend.
Mais exactement, très ensoleillée un petit peu partout, sauf toujours en Méditerranée. On a toujours ces remontées nuageuses, faiblement pluvieuses, pas trop de pluie. Et ça va empiéter sur les Pyrénées, sur les Alpes provençales également, sur la Corse aussi, pas mal de nuages. Sinon, partout ailleurs, le soleil va vraiment prendre sa place. On aura quelques petits cumulus, mais ils sont juste décoratifs, histoire de ne pas trop s'ennuyer avec tout ce bleu du ciel. Et puis, nous aurons de nouveau des températures qui vont grimper très haut, de 16 à 17 degrés, voire 18 à Paris, comme à Toulouse, comme à Toulon.
Merci beaucoup Christine Peña. 5h59 sur France Info, l'édition spéciale se poursuit avec vous Adrien Beck. Bonjour Adrien.
Bonjour Maureen, bonjour à tous. Et oui, la spirale de la guerre au Moyen-Orient, France Info toujours en édition spéciale au quatrième jour de ce conflit entre Iran d'un côté, Israël et États-Unis de l'autre. Mais c'est toute une région qui se retrouve embarquée après les Émirats, le Koweït, Oman, le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite qui a été frappée cette nuit une nouvelle fois. On vous explique le dessous des cartes, quels sont les objectifs de guerre des États-Unis.